Voilà, bonjour frères et sœurs. Nous allons partager ce matin sur ce sujet du jeûne. Comme nous avons commencé à en parler dimanche dernier, concernant le jeûne et prière, on a un petit peu partagé pour ceux qui n'étaient pas là. Nous avons tenté de définir ce qu'est exactement le jeûne et ce qu'il n'est pas. Ce qu'il est, trois choses à retenir sur ce qu'il est. Qu'est-ce que le jeûne? C'est une abstention de nourriture, c'est aussi une abstention volontaire, et puis il est accompagné de la prière. Voilà, pour définir ce qu'est le jeûne, nous avons ces trois aspects, abstention de nourriture, prière, et puis volontaire. Donc on a parlé aussi de ce qu'il n'était pas, effectivement, il faut bien être conscient que le fait de ne pas manger n'est pas forcément jeûner. Certains disent qu'ils jeûnent, mais aussitôt après le jeûne, ils mangent. Par exemple, ils vont jeûner entre midi et 2, et puis à 14h15, ils vont manger. Ce n'est pas à proprement parler un jeûne, il s'agit d'un repas décalé. Certains jeûnent dans des motifs aussi qui ne sont pas vraiment inspirés, comme si c'est pour faire un régime, par exemple, si c'est pour une raison médicale, si c'est pour des choses comme cela, ça ne correspond pas au jeûne. D'ailleurs, il faut savoir que si on perd des kilos avec le jeûne, on les reprend aussi rapidement après, donc on ne le fait pas pour faire un régime. Et on a parlé de la sagesse qui est nécessaire à avoir lorsque l'on jeûne, puisqu'on ne fait pas n'importe quoi, n'importe comment, et on a parlé de rejeter toute forme d'excès. Et aussi, le jeûne est accompagné de boissons. Voilà, dans une deuxième partie, on a vu l'enseignement de Jésus. Trois passages à retenir. Matthieu chapitre 4, qui est l'exemple lui-même de Jésus qui a jeûné 40 jours dans le désert, alors même qu'il était tenté. On a vu aussi cet enseignement dans Matthieu 9, où Jésus dit « Lorsque l'époux sera enlevé, ils jeûneront ». Donc, Jésus nous donne ici une information qu'il s'attend à ce que les disciples jeûnent. Et puis Matthieu chapitre 6, le vrai et le faux jeûne, tous ces enseignements qu'on a vus la semaine dernière, et qui nous montrent qu'il y a un faux jeûne qui est dénoncé, qui n'est pas la gloire de Dieu, et qu'il y a le véritable jeûne que Dieu honore. Et Jésus nous dit « quand tu jeûnes ». Donc il s'attend à ce que les disciples passe du temps dans le jeûne. Et enfin, on a parlé de la durée du jeûne qui part de une journée dans la Bible, bien sûr, jusqu'à 3 jours, 7 jours, 40 jours. On a donné plusieurs exemples. Maintenant, nous arrivons au quatrième chapitre, qui sont les buts du jeûne. J'en avais évoqué deux mots, et c'est ce que nous désirons partager, méditer. Pourquoi est-ce que nous jeûnons? Qu'est-ce qui va nous pousser à nous priver de nourriture et de passer ce temps dans la prière? Et en étudiant la parole de Dieu, on se rend compte qu'il y a une multitude de raisons pour lesquelles des croyants se sont mis à jeûner et à chercher la face de Dieu. Et j'aimerais voir ces exemples avec vous. Il y en a une dizaine que j'ai relevées. Et il faut savoir que tous les exemples dans la parole, ce n'est pas exhaustif, c'est-à-dire que vous aussi, vous pouvez avoir des raisons personnelles, particulières pour lesquelles vous allez jeûner, mais cela nous donne au moins des exemples concret de personnes qui l'ont fait et pourquoi ils l'ont fait, sans toutefois traiter tous les cas de figure. C'est pour ça qu'il y a une grande liberté, à la fois dans les sujets, et je l'ai dit aussi dans la manière de pratiquer le jeûne. Quand on parle de jeûner une journée, on m'a posé la question, oui, mais est-ce qu'on peut commencer le soir et finir le soir? Effectivement, chacun va l'adapter à sa façon, à sa manière, suivant comme il le ressent de la part de Dieu. Donc il y a une grande liberté dans la manière de pratiquer le jeûne. Donc, on va voir le premier point, qui est chercher l'Éternel. Alors, on a un texte dans 2 Chroniques, chapitre 20, et au verset 3, donc qui nous dit ceci. « Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. » Il se disposa à chercher l'Éternel. Josaphat, donc, un roi de Juda, réformateur, un roi bien connu de l'Ancien Testament, qui a fait des choses tout à fait remarquables, comme le fait de disparaître les idoles du pays, le fait de remettre à l'honneur la parole de Dieu. Et cependant, il va passer ici par une épreuve terrible, puisqu'il va y avoir une guerre qui va se lever contre lui, des ennemis nombreux qui viennent pour le détruire. Et ce n'est pas parce qu'on est croyant, qu'on aime Dieu, que l'on ne passe jamais par des épreuves. Et je dirais même au contraire, plus on aime le Seigneur, plus on veut le suivre, plus on connaît certaines épreuves, certaines difficultés. Et en fait, Dieu va éprouver sa foi, sa fidélité, pour voir s'il est vraiment avec lui. Plusieurs peuples, donc ennemis, sont contre Josaphat. Il y a les Moabites, Ammonites, Maonites, tout ça vous l'avez dans le contexte du chapitre 20. Mais la Bible dit que c'était une multitude nombreuse. Donc quelque chose d'effrayant, quelque chose d'important. Et lui, la crainte a commencé à jaillir dans son cœur. Il a eu peur, il s'est vu mort, il s'est vu perdu, lui et son peuple. Donc, dès que Josaphat a entendu cela, il s'est mis à implorer l'Éternel et à chercher l'Éternel. Voilà une des raisons pour lesquelles nous pouvons jeûner, c'est de chercher la face de Dieu, de chercher le conseil de Dieu, de chercher l'Éternel. On est peut-être dans une situation difficile. Effectivement, là, on voit qu'il le fait dans une situation de danger imminent. Et c'est ainsi qu'il va être poussé à le faire. Il faut savoir, pour bien expliquer le contexte, que Josaphat, bien qu'il aimait le Seigneur, a fait aussi certaines erreurs. Et là, le Seigneur va lui montrer qu'il avait fait une grave erreur en s'alliant avec Akab, quelque temps avant, un roi qui n'était pas dans les plans de Dieu. Et Dieu lui avait montré que c'était pas bien, qu'il avait péché. Il avait envoyé un prophète auprès de lui pour le reprendre, le prophète Jéhu. Et maintenant, Josaphat, dans cette attaque, il sent bien que ce qu'il a fait était mal et qu'il est comme sous une punition ou sous un jugement de Dieu. Et c'est pour ça qu'il est dans la crainte. Car quand nous sommes en Christ, quand nous faisons la volonté de Dieu, nous n'avons rien à craindre. Nous sommes dans les voies de Dieu, il peut y avoir des ennemis, de l'opposition. Si nous sommes droits devant le Seigneur, nous ne craignons pas. Mais étant donné qu'il avait péché, qu'il avait fait quelque chose de mal, la crainte est montée dans son cœur, il ne savait plus comment faire. Et en fait, c'est parce que sa conscience l'a travaillé. Et heureusement que nous avons une conscience, frères et sœurs, qui nous montre si nous sommes dans la vérité ou si nous sommes dans le péché. C'était pas une question de morale, il n'avait pas fait de faute morale, il n'avait pas fait quelque chose comme un adultère ou trompé, etc. Il avait simplement désobéi à la parole de Dieu. Mais toute désobéissance à la parole de Dieu est un péché. C'est pour ça qu'il nous arrive de pécher par désobéissance, tout simplement, à ce que Dieu nous demande, comme c'est arrivé à ce roi. Et Dieu ne ferme pas les yeux comme ça sur le péché. C'est quelque chose de grave aux yeux de Dieu, et donc il y a eu ici une sentence, un jugement. Alors le Seigneur nous demande de nous conserver purs pour lui, dans notre conscience, dans nos actes. Il dit par exemple à Timothée, « Conserve le mystère de la foi dans une conscience pure. » Que tout ce que tu fais, tout ce que tu dis soit en correspondance avec tes actes, qu'il n'y ait pas d'hypocrisie, de fausseté dans ce que tu fais. Et puis ailleurs, Paul, il est dit qu'il s'efforçait d'avoir une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. Et je crois que c'est vrai pour nous, car si nous sommes dans le péché, si nous faisons des choses mauvaises, si nous désobéissons à la parole de Dieu, eh bien nous aurons aussi des conséquences et des difficultés à cause de cela. Alors cependant, je reviens à cet homme, Josaphat, on voit que sa réaction est positive malgré tout, parce qu'il va revenir à Dieu. Il va revenir justement dans le jeûne, il va se tenir devant Dieu, il va se disposer à chercher à nouveau l'Éternel, peut-être qu'il l'avait délaissé, peut-être qu'il avait mis ça de côté, il avait été combattre avec Akab, c'était pas bon, c'était selon ses plans, selon sa volonté, il avait fait des erreurs, désobéissant à la volonté de Dieu. Bon, maintenant, il se dispose à agir d'une manière conforme à la parole. Et ce qui est remarquable chez ce roi, qui a quand même une armée, il n'est pas tout seul, il est assez puissant finalement, c'est le souverain du pays, il a des armes avec lui, et bien il dit « Toutes ces choses, je les mets de côté, mais je vais chercher l'Éternel. » Et ça, c'est très important pour nous, car nous ne devons pas nous confier dans nos possibilités, dans nos manières de faire humaines, même dans notre puissance personnelle, ou notre force, si vous préférez, mais dans la puissance de Dieu. Alors ça n'aurait pas été illogique qu'il compte sur son armée et qu'il dise « Seigneur, bénis mon armée, on va aller combattre ». Il n'a pas fait comme cela, il a préféré d'abord passer du temps dans la prière Et finalement, ce qui était apparemment inutile sur le plan stratégique et militaire s'est avéré positif pour lui, puisque Dieu a béni dans ce temps de jeûne, il y a eu la réponse de Dieu. Voyez au verset 12, regardez qu'est-ce qu'il dit. « Ô notre Dieu, n'exerceras-tu pas tes jugements sur eux, car nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous, et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. » Ça, c'est sa prière dans le jeûne. C'est la prière qu'il fait monter vers Dieu. Et il dit deux choses dans cette prière. Il reconnaît qu'il ne sait pas quoi faire. Et bien souvent, frères et sœurs, nous sommes dans des situations où nous ne savons pas ce qu'il faut faire. Ben, il faut le reconnaître devant Dieu. Et ça, c'est pas un péché de pas savoir quoi faire. Et nous disons, Seigneur, voilà, je n'ai aucune solution. Mais il dit, mais nos yeux sont sur toi. Et il compte sur la grâce de Dieu, sur l'intervention de Dieu. Donc, il reconnaît vraiment sa faiblesse, il se sent perdu. Et c'est important d'être humble devant Dieu, comme Saül, lorsque Dieu lui dit, lorsque tu étais petit à tes yeux, eh bien, le Seigneur l'avait élevé. Mais lorsqu'il s'est senti grand, alors là, il a dû être humilié. Donc, il nous faut vraiment réaliser notre misère. Et en fait, cet homme, malgré sa sagesse, il est roi, il a certains conseillers autour de lui, on pourrait dire des généraux, des militaires, etc. Malgré les conseillers qu'il a potentiels, il préfère se confier dans les conseils de Dieu. Et vraiment, c'est de la sagesse spirituelle. Alors il lève les yeux vers le ciel dans l'attente d'une réponse. Et voyez, en se tenant dans le jeûne et la prière, eh bien, dans l'attente, là, il ne s'est pas dit combien de temps ils ont jeûné, combien de temps ils ont cherché ça, mais en tout cas, Dieu a répondu, c'est marqué au verset 14, il est dit que « L'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'Assemblée Jekaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jehiel et fils de Matania, lévite d'entre les fils d'Azaph. » Et Jekaziel dit « Soyez attentifs, tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel. » Et voilà la réponse de Dieu. Ils se sont tenus dans le jeûne, et la réponse est « Ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, mais ce sera Dieu. » Et puis la suite de la prophétie montre que Dieu va leur donner une pleine victoire. Alors là, ils pouvaient dire « Merci Seigneur ». Car il y a une intervention surnaturelle de Dieu, alors qu'ils sont dans le jeûne et la prière, la réponse de Dieu vient, et ils peuvent partir au combat en toute paix, en toute joie. Et d'ailleurs, voyez, le jeûne se termine par un temps de louange et d'adoration dans un esprit de victoire. Vous avez les versets 18 qui le disent, toujours dans ce chapitre 20. Josaphat s'inclina le visage contre terre. Tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils des Kéatites, d'entre les fils des Coréites, se levèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Voilà un jeûne qui a commencé donc dans une prise de conscience qu'on s'était détourné de Dieu. Ensuite, il a réalisé avec le peuple qu'il ne pouvait rien faire, qu'il était perdu, et il tourne ses regards vers Dieu. Et dans la suite du jeûne, il y a la réponse de Dieu, et enfin, à la fin du jeûne, vous avez un moment de louange et d'adoration. C'est un bel exemple qui montre dans ce sens-là que nous devons chercher l'Éternel. Toujours dans ce point de chercher l'Éternel, la Bible nous montre aussi dans quelques versets que Dieu parfois se cache. Par exemple, Ésaïe 45, verset 15 nous dit « Mais tu es un Dieu qui te cache, Dieu d'Israël, Sauveur ». Et nous, notre rôle, c'est de le chercher, de chercher sa volonté, de chercher à en connaître plus sur Dieu, de le connaître mieux. Et en fait, quand Ésaïe dit ça, tu es un Dieu qui te cache, il s'exclame devant ce Dieu tout-puissant qu'il n'arrive pas toujours à saisir, à bien cerner, car Dieu dépasse notre pensée, il est insondable, il est mystérieux. Et le Seigneur s'attend à ce que son peuple le cherche aussi avec avidité. J'ai trouvé aussi quelques promesses dans la parole de Dieu, où il est dit « Tu n'abandonneras pas ceux qui te cherchent. Ceux qui cherchent l'Éternel le célébreront. Ceux qui cherchent l'Éternel ne seront privés de rien. Ceux qui cherchent l'Éternel comprennent tout, etc. » Donc cherchons l'Éternel, frères et sœurs, et un bon moyen de le chercher, c'est de se tenir dans le jeûne et dans la prière. Deuxième point, Donc maintenant, invoquer la protection divine. Et nous lisons un autre texte dans Esdras, chapitre 8 et au verset 21. Alors, normalement il est affiché. Je vais le lire avec vous. Là, près du fleuve d'Ahava, je publiais un jeûne d'humiliation devant notre Dieu afin d'implorer de lui un heureux voyage pour nous, pour nos enfants et pour tous ceux qui nous appartenaient. Et je lis les deux versets suivants. J'aurais eu honte de demander au roi une escorte et des cavaliers pour nous protéger contre l'ennemi pendant la route, car nous avions dit au roi, la main de notre Dieu est pour leur bien et tous ceux qui le cherchent, mais la force et sa colère sont sur tous ceux qui l'abandonnent. Et c'est à cause de cela que nous jeûnâmes et que nous invoquâmes notre Dieu et il nous exauça. Alors une autre raison pour laquelle nous pouvons jeûner ici, c'est d'invoquer la protection divine. Ici il est question d'un voyage, donc Esdras est inscrit, versé dans la loi, la parole de Dieu, et il nous est connu, il a rendu témoignage par exemple de la puissance de Dieu devant son responsable, bon, c'était le roi Artaxerxès, et il n'a pas eu honte de l'évangile, même dans son lieu de travail, même dans son lieu où il était. Il n'a pas eu honte de sa foi devant les autorités, même si les autres pouvaient se moquer de lui. Ben lui avait dit au roi, voilà, moi je crois en Dieu, je crois qu'il est capable de me protéger pendant la route, et il n'avait pas besoin d'escorte du roi. Il faut savoir qu'à l'époque, les déplacements étaient très dangereux, il y avait plusieurs centaines de kilomètres de distance, c'était pas facile, et des brigands pillaient souvent les caravanes. Et lui, il risquait sa vie pour servir Dieu. Il disait, oui, moi je veux bien faire la volonté de Dieu, mais je dois faire ce voyage. Il y avait un risque quand même. Alors une chose est sûre, c'est que Esdras a confiance en Dieu, plus que dans les hommes, plus que dans la garde. Il dit, moi j'aurais eu honte de demander la garde royale. Donc il a eu plus confiance en Dieu que dans les hommes. Alors ça aurait été peut-être de la sagesse de dire, mais moi je vais quand même prendre la garde du roi, on ne sait jamais, mais lui a dit non, je n'en ai pas besoin, Dieu va veiller sur mon voyage. Bon, néanmoins, il s'est préparé dans le jeûne et dans la prière. Alors il a préparé cela sérieusement. Quelqu'un aurait pu lui dire, mais c'est pas raisonnable, tu pries trop, tu devrais plutôt t'entourer de soldats, etc. Mais lui, il avait cette conviction, et je rappelle ce que j'ai dit, dans le jeûne et dans la prière, c'est des décisions personnelles. On le reçoit de Dieu, on reçoit des directives de Dieu. Donc c'est comme cela qu'il le vit, et c'est comme cela qu'il va supplier l'Éternel d'être favorable. Et vous avez vu que le jeûne n'a pas été sans effet, puisque à la fin du verset 23, il est dit, ils sont partis, bon, nous jeûnâmes, nous invoquâmes notre Dieu, et il nous exauça. Donc il y a eu ce temps quand même de prière et de jeûne, et puis il a été exaucé. Verset 31, je voulais le lire aussi. Nous partîmes du fleuve Ahava pour nous rendre à Jérusalem. Le 12e jour du premier mois, la main de notre Dieu fut sur nous et nous préserva des attaques de l'ennemi et de toute embûche pendant la route. Ça veut dire qu'il y a pu y avoir de l'opposition, des tentatives, etc., mais que la main de Dieu les a protégés. Et je crois que pour nous, eh bien, nous pouvons jeûner aussi dans ce sens-là et prier le Seigneur si nous partons nous avons besoin de la direction divine pour un voyage, pour un déplacement, pour quelque chose, pour son service, eh bien, il ne faut pas hésiter à prier le Seigneur. Et on voit qu'il va faire des expériences avec Dieu, ainsi qu'ils vont fortifier sa foi et qui vont l'amener à encore davantage placer sa confiance en Dieu. Ce sont des expériences que nous pouvons faire avec le Seigneur. Parfois, nous avons tendance à trop chercher des solutions de facilité ou des solutions humaines, et on oublie de faire d'abord confiance à Dieu. Et dans ces exemples, on voit des gens qui ont préféré mettre leur foi en Dieu plus qu'en autre chose. Comme les disciples, lorsqu'ils sont venus voir Jésus, j'avais cette pensée, qu'ils ont dit au Seigneur simplement, « Seigneur, augmente-nous la foi. » Mais le Seigneur va nous augmenter la foi, frères et sœurs, si nous décidons de mettre en pratique la parole et de faire confiance à Dieu. Si je fais jamais confiance à Dieu, si je dis pas « Seigneur, j'ai besoin de ta grâce, interviens », et je prends le risque, je fais confiance au Seigneur, ben, je ne vais pas faire d'expérience. Donc c'est à nous aussi de dire à un moment donné, bien sûr avec sagesse, avec discernement, étant conduit par Dieu, eh bien de dire, Seigneur, je vais croire ce que tu dis, plus ce que me disent les hommes. Troisième point, donc on passe sur l'écran, c'est exprimer un profond sentiment de repentance. Voilà une autre raison pour laquelle nous pouvons jeûner. C'est la repentance, c'est-à-dire, vous savez ce qu'est la repentance, c'est un sentiment de tristesse que l'on éprouve parce que l'on a péché, on sait qu'on a offensé Dieu, qu'on a fait quelque chose de mal, et on veut vraiment bien confesser son péché, l'avouer à Dieu, même s'il le sait, disons, le dire, le formuler devant Dieu, c'est aussi l'abandonner et décider de marcher dans les voies de Dieu et d'obéir au Seigneur. Voilà ce qu'est la repentance. Et ça, c'est une étape décisive dans la conversion d'une personne, car si une personne ne s'est pas repentie, elle ne peut pas vraiment vivre l'Évangile. Elle va être une adhérente, elle va venir aux réunions peut-être, elle va écouter la parole, elle peut être même baptisée, mais si elle n'a pas vraiment vécu la repentance, ben, la conversion n'a pas lieu. Il faut une repentance sincère et réelle du cœur. Donc ça c'est nécessaire, mais on se rend compte que dans la vie chrétienne, on peut s'éloigner de Dieu, on peut aussi faire des erreurs, etc. Et on a besoin de revenir, de se repentir à nouveau, de demander pardon pour ses péchés, de décider d'abandonner tel péché et de revenir à Dieu. Alors, on va voir trois exemples. Le premier, c'est les enfants d'Israël. Je lis un texte dans Néhémie, chapitre 9 et verset 1. Voilà ici les enfants d'Israël qui vont exprimer un sentiment de repentance. Le 24e jour du même mois, les enfants d'Israël s'assemblèrent, revêtus de sacs et couverts de poussière pour la célébration d'un jeûne. Ceux qui étaient de la race d'Israël, s'étant séparés de tous les étrangers, se présentèrent et confessèrent leurs péchés et leurs iniquités et les iniquités de leurs pères. Lorsqu'ils furent placés, on lut dans le livre de la loi de l'Éternel leur Dieu pendant un quart de la journée, et pendant un autre quart, ils confessèrent leurs péchés et adorèrent l'Éternel leur Dieu. Alors, dans cette pensée, ici les enfants d'Israël, il s'agit d'un jeûne collectif. On a parlé de la différence entre jeûne collectif et individuel, sachant que le jeûne collectif, eh bien, c'est une convocation. C'est ce que nous faisons dans l'Église. Mais que Jésus a parlé du jeûne individuel, qui est secret, et on ne doit pas le publier, le dévoiler. Mais le jeûne collectif, il n'est pas secret, il est public. Et ici, il s'agit donc d'un jeûne de convocation où le peuple réalise qu'il a négligé la parole de Dieu, qu'il a négligé d'obéir à ce que Dieu veut pour sa vie, qu'il a vécu dans le compromis, il y a eu toutes sortes de mauvaises choses, et vraiment il y a eu une prise de conscience. Et je crois que c'est bon quand on réalise qu'on ne peut plus continuer comme ça. Dieu nous montre à ce moment-là, bien, ça ne va pas. Je pense au fils prodigue, par exemple, à un moment donné, il est dit « étant entré en lui-même ». Il a fait une analyse de sa situation, il se retrouvait à garder des pourceaux, il n'avait pas à manger, il avait quitté la maison du père. Bon ben, voilà. Il faut faire un petit bilan, une analyse, et c'est ça qui lui a permis, cette prise de conscience, l'a poussé, ici, les a poussés dans un jeûne, et dans ce jeûne, ben, ils ont eu des réponses de Dieu. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce jeûne? C'est intéressant de voir cet exemple, car il y a eu une réunion qui a duré 6 heures, une demi-journée. Et dans cette réunion, il y a eu 3 heures de la lecture de la parole de Dieu, c'est ce qu'on a lu, un quart de la journée. 3 heures, la lecture des Écritures qui a fait le travail dans leur cœur, qui les a amenés à la repentance. Et puis enfin, il y a eu une 3 heures suivantes où le peuple a confessé ses péchés devant Dieu, a demandé pardon, donc ils ont été convaincus qu'ils étaient loin de Dieu. Alors là, il y a vraiment eu un réveil. Et ils ont fini dans l'adoration. Le peuple est revenu vers Dieu, tous ensemble. La parole de Dieu doit faire son œuvre dans nos cœurs, frères et sœurs. C'est pour ça que nous devons la lire et nous nourrir de la parole. Vous voyez, pendant un long moment, ils ont lu la parole, ils se sont nourris de la parole. Et c'est comme ça que ça va changer nos cœurs, que ça va changer nos vies. accompagné de l'action de l'Esprit, ça produit la repentance. Alors ne négligeons pas cette parole, elle est comme un miroir qui va révéler l'état de notre cœur, et lisons-la abondamment. Donc le deuxième exemple qu'on va voir maintenant, c'est Daniel. On a toujours dans ce sentiment de repentance, Daniel, dans le prophète Daniel au chapitre 9 et au verset 3. Ici un autre exemple, où Daniel va prier pour son peuple. Alors je vous le lis, Daniel 9, verset 3. « Je tournai ma face vers le Seigneur Dieu, afin de recourir à la prière et aux supplications, en jeûnant et en prenant le sac et la cendre. Je priai l'Éternel, mon Dieu, et je lui fis cette confession. Seigneur Dieu grand et redoutable, toi qui gardes ton alliance et qui fais miséricorde à ceux qui t'aiment et qui observent tes commandements, nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons été méchants et rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. » Alors on va pas lire toute la prière, mais c'est ça. Il est parti dans une confession de ses péchés, mais pas seulement ses péchés, il dit de son peuple. Confesser ici des péchés auxquels il n'a pas participé directement, mais il y a une sorte d'identification, et ça je crois que c'est spirituel. C'est-à-dire que quand on est là, au milieu du peuple de Dieu, si on sent que l'Église s'est éloignée, ou que le peuple de Dieu s'est éloigné du Seigneur, qu'il est retourné dans le monde ou dans le péché, alors on a une prise de conscience. Et on se dit, mais Seigneur, il y a des choses qui ne vont pas. Et là, il y a une sorte d'identification. C'est pas seulement Daniel, mais Daniel au nom de son peuple, qui se présente devant Dieu. Alors il y a plusieurs exemples comme ça dans la Bible, où des hommes vont demander pardon non seulement pour leurs péchés, mais pour tout le peuple. Car ils se sentent responsables, ils se sentent solidaires, et c'est exactement le cas dans l'Église. Nous sommes solidaires des uns des autres, et si quelqu'un a un péché, ben cela doit nous pousser à la tristesse, et à aussi rechercher vraiment donc Dieu, invoquer le Seigneur, et nous, ça doit nous pousser à la repentance, et à revenir vers Dieu. Le dernier exemple, le troisième, c'est le peuple de Ninive dans le prophète Jonas au chapitre 3 et au verset 5. Et là aussi, tout un peuple va se repentir. C'est un peuple qui ne connaissait pas Dieu et on va voir qu'ils vont faire un jeûne. Jonas 3, 5, les gens de Ninive crurent à Dieu et ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Tout le monde est rentré dans ce jeûne. C'est un exemple de repentance collective, après un avertissement de la part de Dieu à Jonas qui avait dit « Ninive sera détruite ». Alors ils ont eu une prise de conscience, nous sommes dans le péché, nous avons mal fait, et ils ont décidé de jeûner, de prier, ainsi pour demander pardon à Dieu pour leur péché. Alors, en jeûnant, ils ont non seulement ils ont prié, mais ils ont laissé le Seigneur travailler leur vie, l'Éternel a changé leur cœur. La Bible dit qu'ils sont revenus de leur mauvaise voie, ils ont arrêté leur violence, et tout ça s'était terminé. Donc il y a eu un grand changement. Ensuite, dans ce jeûne, ils ont exprimé aussi leur demande à Dieu de les épargner de la colère divine, puisque Dieu avait résolu de détruire Ninive. Et en priant le Seigneur, et ayant vraiment vécu cette repentance, eh bien Dieu aussi a changé ses dispositions. Il est dit que Dieu vit qu'ils agissaient ainsi, qu'ils revenaient de leur mauvaise voie, alors il se repentit du mal qu'il avait fait, qu'il avait résolu de leur faire, et il ne le fit pas. Donc on voit que dans le jeûne et la prière, il y a eu cet exaucement. Non seulement ils ont été sauvés, mais ils ont été épargnés, et Ninive n'a pas été détruite. Quatrième raison pour laquelle nous pouvons jeûner, c'est de se tourner vers Dieu dans une situation désespérée. Et là, nous avons encore des exemples dans le roi. Il y eut un grand deuil chez les Juifs. Ils jeûnaient, pleuraient et se lamentaient. Beaucoup se couchaient sur le sac et la cendre. Alors vous connaissez le contexte de ce récit dans le livre d'Esther. Le peuple de Dieu est sur le point de se faire exterminer puisque le roi a écrit un édit dans ce sens-là, mal conseillé. Il a écrit un édit Et par la suite, Esther va demander un jeûne de 3 jours, on en avait parlé la semaine dernière, sans manger ni boire, vous vous rappelez, car c'était une question de vie ou de mort, et il a dit au peuple, voilà, vous allez jeûner comme ça 3 jours, 3 nuits, et moi je me rendrai vers le roi, et si je dois mourir, eh bien je mourrai. Donc le décret du roi était bien signé, il n'y avait plus aucun espoir, et c'est dans cette situation-là que le jeûne est intervenu. En fait, il se disait, si Dieu n'intervient pas, tout est perdu. C'était une situation catastrophique. En fait, ils ne peuvent strictement rien faire si ce n'est de jeûner et de prier. Et là, on se rend compte que Dieu parfois nous humilie et que toutes nos actions, toutes nos pensées, tout ce qu'on peut réaliser n'a plus de valeur. On ne peut rien faire. Et Jésus nous l'a dit dans Jean 15, « Sans moi, vous ne pouvez rien faire. » C'est facile de le lire, mais c'est dur de le réaliser. Quand nous passons par cette situation, comme Esther, où nous sommes perdus, nous ne pouvons rien faire, seulement nous pouvons jeûner, prier, chercher la face de Dieu. Et le jeûne a eu pour résultat un nouveau décret du roi, ça c'est tout le livre d'Esther, où les Juifs ont pu se défendre et ils ont remporté une grande victoire. Donc Dieu a changé le mal en bien. Parce qu'il y a eu cette mise à part, ce temps de jeûne, ils étaient dans l'impasse. Mais il y a eu une sortie miraculeuse. Donc béni soit le Seigneur. Voilà un exemple de personnes qui ont jeûné. Alors, deuxième exemple, c'est David. Et là, c'est un exemple négatif, si on peut dire, puisque c'est un jeûne qui n'a pas été exaucé. Et j'ai voulu quand même le signaler. Donc David, dans 2 Samuel chapitre 12, verset 16, David pria pour l'enfant et jeûna. Et quand il en rentra, il passa la nuit couché par terre. Voilà, c'est un extrait du passage. Donc David a jeûné suite à son péché avec Bathsheba. Il y a eu un enfant qui est né. Et cet enfant, eh bien Nathan, lorsqu'il a dévoilé le péché, il a dit à David, toi tu ne mourras pas, mais l'enfant qui est né de cette union mourra. Et c'est pour cet enfant en question donc que David s'est mis dans un jeûne. Il a prié, il a supplié le Seigneur. Et le jeûne qu'a entrepris David n'était pas dans les plans de Dieu, n'était pas dans la volonté de Dieu, il n'a pas été exaucé, malgré les 7 jours de jeûne qu'il a fait, l'enfant est mort. Et c'est seulement l'enfant suivant, c'est-à-dire Salomon, qui héritera la couronne et le royaume. Et cet exemple nous montre qu'il y a des jeûnes qui ne peuvent pas être exaucés parce qu'ils vont être faits, non pas selon les plans de Dieu, mais selon nos désirs. Certains vont pratiquer un jeûne pour obtenir des choses, pour obtenir tel ou tel poste ou telle chose, et ça n'aboutit pas, ce n'était pas le plan de Dieu non plus. Donc Dieu reste souverain et on ne peut pas forcer Dieu. Si vraiment il a décidé que ça sera non, ça sera non. Enfin, le troisième exemple, c'est Néhémie, chapitre 1 et au verset 4. Lorsque j'entendis ces paroles, je m'assis et je pleurais pendant plusieurs jours, et je pris le deuil, je jeûnais et je priais devant Dieu, devant le Dieu des cieux. Là, on retrouve Néhémie en captivité. Il est en Perse, bien sûr. Vous savez que les Juifs ont été 70 ans en captivité. Il avait un service auprès du roi, il était échanson. Et en recevant les nouvelles de Jérusalem, parce qu'il aimait toujours sa ville et puis le temple, eh bien, il apprend des nouvelles catastrophiques. La ville est en ruine, les murailles sont détruites, les portes sont consumées, le temple est détruit, etc. Donc les Juifs de Juda étaient vraiment au comble du malheur, une situation désespérée. C'est toujours la même chose sur ce plan-là. Néhémie, donc, immédiatement est touché par cette situation. Il ne reste pas indifférent en disant, bon, moi je suis bien à la capitale, à Suse, eux ils se débrouillent là-bas, non. Parce que quand on est vraiment croyant, quand on aime Dieu, quand il y a une difficulté dans l'œuvre de Dieu, eh bien on est mobilisé, on est touché. Et lui, dans son cœur, il dit, mais qu'est-ce qu'on peut faire? Il sait qu'humainement il peut rien faire, mais en même temps il veut qu'il se passe quelque chose. Mais c'est ça quand on aime Dieu. Et quand il y a une difficulté, on ne se réjouit pas de ce que quelqu'un passe par une difficulté, mais on veut prier pour lui. Quand l'Église est attaquée, quand elle est bafouée, quand elle passe par un moment difficile, eh bien, on va se mobiliser dans la prière. Et c'est comme ça, en se serrant les coudes, en étant unis, ben, que l'Église va de l'avant. Comme dit la parole, le zèle de ta maison me dévore. On aime l'œuvre de Dieu, on aime l'Église, et on veut qu'elle aille de l'avant. Alors, il sait qu'il ne peut rien faire, il est triste. Qu'est-ce qui va se passer? Il est à des centaines de kilomètres, il est limité. Ben, il va se tenir dans le jeûne, il va se tenir dans la prière. C'est quelque chose que ça, il pouvait faire. Et Dieu, par ce jeûne et prière, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est que il va trouver grâce auprès du roi. Et étant auprès du roi, il avait quand même une position privilégiée, ben le roi va lui dire, ben, écoute, si tu veux y aller, tu y vas. Et puis il lui a même donné des lettres pour la reconstruction des murailles, etc. Donc il a eu une bénédiction, il a eu vraiment la main de Dieu sur lui. Encore une fois, Dieu a changé le mal en bien. Et je crois que nous de même, si on est dans une situation désespérée, sans issue, eh bien on peut avoir recours au jeûne et à la prière, comme ces exemples que je vous ai cités, et s'attendre vraiment au miracle de Dieu. Terminons avec un dernier exemple, point numéro 5. Cinquième raison pour laquelle nous pouvons jeûner, humilier son âme. Et nous lisons au psaume 35 et au verset 13. C'est David qui dit, « Moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac. J'humiliais mon âme par le jeûne. Et je priais la tête penchée sur mon sein. » Voilà un autre exemple. Un autre aspect du jeûne, mais très important, c'est de s'humilier. En fait, l'orgueil de l'homme, on s'en rend compte, est attaché au cœur depuis l'enfance. Et c'est vrai que même les psychanalystes, ils disent que l'enfant... Lui, il se croit tout puissant. Quand il est bébé, quand il a un an, deux ans, tout le monde est à ses ordres, tout le monde doit faire sa volonté. Et quelque part, il y a toujours cet orgueil qui est attaché à notre cœur, même quand on devient adulte. Et ça, c'est un problème sérieux, parce qu'on ne peut rien faire dans l'œuvre de Dieu avec de l'orgueil, avec la vanité, avec un état d'esprit fier. Alors, l'orgueil pousse l'homme à se séparer de Dieu. On a des exemples dans la Bible, comme Samson, à un moment donné, il était pris par les Philistins, et il dit, « Ben moi, je m'en tirerai comme les autres fois. » Voilà une parole d'orgueil. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui, mais il pensait pouvoir s'en sortir, mais il a été fait prisonnier. Donc nous, on peut avoir l'impression qu'on va réussir par nous-mêmes, mais si l'Éternel n'est pas avec nous, on n'a aucune chance. L'orgueil vraiment pousse l'homme dans le péché. C'est la racine du péché. Vous savez comment... Lucifer, qui à l'origine n'était pas Satan, mais un chérubin protecteur de la création, il a chuté par orgueil. Et il veut entraîner les hommes dans l'orgueil. Quand Satan a tenté Ève, il lui a dit, si vous mangez de ce fruit, vous serez comme des dieux. C'était l'orgueil, encore, pour la faire monter, pour la faire... Et on se rend compte d'une chose, c'est que quand le diable peut pas arrêter quelqu'un, il le pousse, mais dans le mauvais sens. Et il va vous pousser vers peut-être la chose qui vous attire et qui vous met en valeur, etc. L'orgueil sera aussi une motivation suprême à la fin des temps pour l'Antichrist qui sera à la tête d'un gouvernement mondial. L'orgueil. On le retrouve partout, dans le péché, dans le cœur. Ça endurcit, ça suscite des querelles. L'orgueil précède la chute. L'orgueil, c'est quelque chose qu'on doit extirper de nous-mêmes. Et comment peut-on le faire ? Eh bien, par le jeûne, par la prière, David dit, j'humiliais mon âme dans ces circonstances-là. Donc, cet orgueil doit être débusqué, il doit être tenu en bride, et notre âme va ainsi être humiliée. La Bible nous dit que Dieu résiste aux orgueilleux, et résistera toujours au cœur orgueilleux, car ceux qui savent mieux faire que les autres, eh bien Dieu ne le prendra pas. Ou celui qui veut se mettre en avant par fierté, eh bien Dieu ne l'utilisera pas. Ou ceux qui veulent servir pour leur propre gloire, eh bien Dieu choisira quelqu'un d'autre. Et on le voit tout le temps dans la parole. Quand on veut servir comme on veut, quand on veut, avec qui on veut, à la manière qu'on veut. C'est pas comme ça, ça c'est l'orgueil. Donc Dieu résiste à cela, mais il fait grâce aux humbles. Et moi j'ai ma responsabilité d'humilier mon âme et de chercher à progresser dans cette dimension. L'humilité n'est pas naturelle et le jeûne et la prière va être comme un brisement volontaire, comme une humiliation de l'âme. Et ça, c'est très important car nous devons supplier Dieu de nous délivrer de cet orgueil, de cette mentalité, même française un petit peu. On sait que le peuple français est quand même assez orgueilleux. Nous devons supplier Dieu d'être libérés de nos manières de faire, de penser, etc., qui ne sont pas la gloire de Dieu. Ça peut être dans les pleurs, ça peut être dans des longs temps où on réalise notre misère devant Dieu. Et c'est ça le jeûne. C'est un moment éprouvant, je l'ai dit, sur le plan physique, moral, spirituel. C'est un moment difficile parce que c'est un moment où on est brisé à l'intérieur, où on doit s'humilier devant Dieu. Voilà, les résistances de l'âme vont progressivement s'effondrer, et ainsi l'humilité, on va se tenir dans l'humilité, et c'est des moments de combat. On va s'arrêter là pour ce matin. J'ai parlé des cinq premiers aspects, il y en a cinq autres raisons encore pour lesquelles on peut jeûner, on n'a pas le temps de les voir, mais vous voyez déjà qu'il y a plusieurs aspects, c'est bon que vous puissiez les noter, et puis les repasser, y réfléchir, et sachez pourquoi vous allez jeûner, ou dans quelle orientation Dieu vous conduit à jeûner. Ce sont des exemples, mais qui peuvent nous servir à nous. On a vu chercher l'Éternel, on a besoin d'une parole de Dieu, d'une direction, invoquer la protection divine, troisièmement, exprimer un profond sentiment de repentance. On a vu aussi se tourner vers Dieu dans des situations désespérées, et puis aussi humilier son âme. Donc tout ça, ce sont des aspects très importants du jeûne que le Seigneur nous invite à maintenant mettre en pratique. Merci pour ta parole qui nous enseigne encore dans cette voie du renoncement, de la consécration, dans cette voie, il est vrai, difficile, où nous passons par les pleurs, parfois par réalité que nous considérons de nous-mêmes, qui nous déçoit, où nous nous rendons compte que bien, nous sommes encore avec un cœur orgueilleux, que nous avons des choses dans notre vie qui ne sont pas à ta gloire, mais tu veux nous en débarrasser. Seigneur, nous te prions de nous aider à vraiment réaliser l'importance du jeûne et de la prière d'une manière personnelle, afin de le pratiquer, Seigneur, pour selon ton cœur, selon ta volonté. Merci pour l'Église que tu as suscitée ici, et nous voulons être une Église vraiment rempli de ton esprit, à la recherche de ta face, cherchant ce que tu désires. Enseigne-nous à mieux prier encore, Seigneur, et à faire ta volonté. À toi la gloire. Amen.